voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'accompagner le très jeune Louis XV dans les premiers instants de sa vie. Louis XV est né à Versailles le 15 février 1710. Il y mourut le 10 mai 1774. Nous vous proposons la lecture de textes extraits du livre de Pierre Gaxotte, Louis XV, paru en 1980 chez Flammarion. Grâce à ces pages lues, nous allons pouvoir faire connaissance avec le petit dauphin et son entourage. Pierre Gaxotte, élu à l'Académie française en 1953, fut conservateur à Chantilly du musée Condé de 1966 à 1972. Voici la lecture du chapitre qu'il intitula « L'orphelin ».
Le roi a bien montré à sa mort qu'il était véritablement grand. On ne saurait mourir avec plus de fermeté et de courage que lui. Il a eu pendant 8 jours la mort devant les yeux sans manifester de crainte ni d'effroi. Et il a tout ordonné comme s'il s'agissait d'un voyage.
Ainsi s'exprime Madame, duchesse d'Orléans, princesse palatine, veuve de Philippe, frère de Louis XIV et mère du prochain régent. C'est le 1er septembre 1715, à 8h15, que le roi mourut. Le 26, on lui avait amené le dauphin âgé de 5 ans. Sa gouvernante, Madame de Ventadour, l'installa dans un fauteuil auprès du lit. Le vieillard considéra quelques instants son frêle successeur, puis, les larmes aux yeux, il lui dit
« Mon cher enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans les guerres. Tâchez de toujours maintenir la avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous le pourrez, ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l'État. Suivez toujours les bons conseils et songez bien que c'est à Dieu que vous devez ce que vous êtes. Je vous donne le père Le Tellier pour confesseur. Suivez ses avis et ressouvenez-vous toujours des obligations que vous avez à Madame de Ventadour. »
Puis, se tournant vers la gouvernante,
« Pour vous, Madame, j'ai bien des remerciements à vous faire du soin avec lequel vous élevez cet enfant et de la tendre amitié que vous avez pour lui. Je vous prie de la lui continuer et je l'exhorte à vous donner toutes les marques possibles de sa reconnaissance. Madame, approchez-moi ce cher enfant, que je l'embrasse pour la dernière fois, puisqu'il plaît à Dieu de me priver de la consolation de l'élever jusqu'à un âge plus avancé. »
Alors, élevant les yeux au ciel et joignant les mains,
Seigneur, je vous l'offre, cet enfant. Faites-lui la grâce qu'il vous serve et honore un roi très chrétien et vous fasse adorer et respecter par tous les peuples de son royaume.
Il embrassa le dauphin par deux fois et, fondant en larmes, il lui donna sa bénédiction. L'enfant sanglotait, on dut l'emporter. Il avait fallu beaucoup de morts pour que la couronne chute au petit garçon que l'histoire appelle Louis XV. Trois dauphins étaient morts en 9 mois. Le fils de Louis XIV d'abord, mort de la petite vérole en 1711, âgé de 50 ans. Le petit-fils, duc de Bourgogne, mort de la rougeole en 1712, à 39 ans, 6 jours après la duchesse. L'arrière-petit-fils, celui qu'on appelait le dauphin Bretagne, parce qu'il avait été titré duc de Bretagne et qui, à 5 ans, fut dauphin 18 jours. Son aîné avait vécu 1 an. Louis XV, né le 15 février 1710 à 8 heures du matin, d'abord appelé duc d'Anjou, avait été, comme son frère, ondoyé dès sa naissance, puis baptisé à la hâte. Le roi, inquiet, ayant ordonné qu'on prît pour parrains et marraines ceux qui se trouvaient dans la chambre. Le comte de la Motte et madame de Vintadour tinrent le dauphin Bretagne, la duchesse de La Ferté et monsieur de Prie, le duc d'Anjou. Madame était persuadée que le dauphin Bretagne était mort par la main des médecins.
Oui, cet enfant était déjà tout empourpré de la rougeole et en transpiration. Les médecins lui ont fait une saignée, puis donné de l'émétique, et au milieu de l'opération, le pauvre enfant est mort. Ce qui prouve bien qu'ils l'ont tué, c'est que son petit frère était atteint de la même maladie, et les 9 docteurs, étant occupés de l'aîné, les femmes du plus jeune, se sont enfermées avec lui et lui ont donné un biscuit, un peu de vin. Hier, l'enfant avait une forte fièvre. Ils ont voulu, les médecins, le saigner. Mais madame de Ventadour et la sous-gouvernante du prince, madame de Villefort, s'y sont fortement opposées et n'ont absolument pas voulu le souffrir. Elles l'ont simplement tenu bien au chaud et cet enfant a été sauvé. À la honte des docteurs, si on les avait laissés faire, sûrement il serait mort.
Madame de Vintadour, née Charlotte de la Motte Audencourt, ancienne dame d'honneur de Madame Palatine, était une personne d'âge dévote et respectable. Elle avait été charmante et fait quelque peu jaser au temps de sa jeunesse. Mais la maturité, tout en lui laissant un grand air de beauté, l'avait à la fois épaissie et rangée. Elle sera pour le petit orphelin la bonne maman, la chère maman. La maman Vintadour, très bonne, très tendre, toujours inquiète, toujours essoufflée et toujours vigilante. L'enfant est délicat, pâlot, chétif. À force de soins et de gâteries, elle lui donnera de bonnes joues, des forces, de l'aplomb. Lors de la dernière maladie du roi qui ne se levait plus, il put, à sa place, passer en revue la gendarmerie montée sur un petit bidet.
« Notre capital est de vivre, »
écrit madame de Ventadour,
« et de prendre peu à peu de bons sentiments. Nous faisons nos leçons ensemble, en riant. Il aura de l'esprit à tout. Le gouverneur mettra en œuvre pour moi. Je n'ai qu'une jolie matière à lui remettre entre les mains, et elle se prêtera sûrement à toute l'industrie de l'ouvrier. »
Les portraits de 1715 nous montrent un délicieux bambin. De grands yeux noirs, lumineux, intelligents, de longs cils qui frisent. Un teint fragile, une bouche fine et rouge, un nez petit mais très bourbonien. Et sur toute sa personne, un air de grâce, une vivacité, une pétulance que contient mal la pompe officielle du tableau. Son père, le duc de Bourgogne, était boiteux et quelque peu bossu. Lui pousse droit et mince.
Le jeune roi est bien fait,
écrit madame en 1717.
Il a la taille la plus droite qu'on puisse voir et de beaux cheveux bruns en abondance.
Avant de mourir, Louis XIV avait prescrit qu'on le conduisit à Vincennes parce que, disait-il, l'air y est meilleur. Mais comme la cour n'y était pas allée depuis plus de 50 ans, il indiqua pour le maréchal des logis où on trouverait un plan du château avec la distribution des appartements et il ordonna qu'on les meublât sans attendre. Le voyage, toutefois, ne se fit pas sans complications. Les médecins de Versailles faisaient valoir que les fossés de Vincennes étaient remplis d'une eau stagnante, dont les émanations étaient malsaines. Le régent fit venir de Paris les mêmes médecins qu'on avait appelés pour le feu roi quand sa maladie fut reconnue dangereuse. Ils étaient 9 en tout, 6 de Paris, 3 de Versailles. La majorité se prononça pour Vincennes. Le roi partit de Versailles le lundi à 2h, et il arriva à Vincennes à 5h, sans avoir traversé Paris. Il était vêtu de violet et, pour être mieux vu, assis sur les genoux de Madame de Ventadour. Le long du chemin et sur tout le rempart, il se trouva une infinité de carrosses et de peuples. Les cris de « Vive le roi !» ne cessèrent pas. Déjà, ce roi de 5 ans avait commencé à apprendre son métier. Louis XIV, à peine mort, le duc d'Orléans avec tous les princes du sang était venu le saluer. En s'entendant traiter de « sire » et de « majesté », il avait fondu en larmes, comprenant que son aïeul n'était plus. Quand les princes du sang furent sortis, entrèrent tous ceux qui se trouvaient de courtisans, ducs et seigneurs mêlés. Le duc d'Orléans les présenta brièvement.
« Voilà, sire, les seigneurs et les principaux de votre cour qui viennent vous assurer de leur fidélité. »
Furent introduits ensuite le chancelier et quelques conseillers d'État qui, à leur tour, promirent obéissance et fidélité. Enfin, le cardinal de Noailles, archevêque de Paris. Le Parlement et les cours vinrent le jeudi 5, mais cette fois, le roi fut copieusement harangué. Les jours suivants, autre harangueur, l'Académie française et l'Université. Le roi signa aussi le contrat de mariage du comte de Torigny, fils de monsieur de Matignon, avec mademoiselle de Monaco, fille du prince. C'est le premier contrat de mariage qui lui ait été présenté. On remarqua qu'il signait très bien son nom. Le jeudi 12, il quitta Vincennes à 1h après-midi pour tenir au Parlement un lit de justice où serait publiée la régence. Il était accompagné d'une partie de sa maison militaire, chevaux légers, gendarmes, mousquetaires, les 100 Suisses entourant son carrosse. À l'entrée du faubourg Saint-Antoine, le prévôt des marchands et les séchevins de Paris lui furent présentés par le duc de Trèmes, gouverneur de la ville. On jetait de l'argent à la foule qui était si dense que le cortège eut du mal à se frayer un passage, quoique les rues fussent bordées de gardes françaises et suisses en très bon ordre. La plupart des boutiques étaient fermées. En arrivant au palais, le roi monta le grand degré à pied, la queue de son manteau violet portée par 2 princes de la maison de Condé. En haut, il fut salué par 4 présidents à mortier et 6 conseillers. Le prince Charles de Lorraine, grand écuyer, le prit entre ses bras et le porta jusqu'à la grande chambre. Le duc de Trèmes le posa sur son lit de justice, dans l'angle de la pièce. La duchesse de Ventadour et le duc de Villeroy, son gouverneur, assis plus bas. Le chancelier dans un fauteuil, au pied même du roi. Quand tout fut placé, le roi salua ses magistrats, puis il leur dit de fort bonne grâce.
« Messieurs, je suis venu ici pour vous assurer de mon affection. Mon chancelier vous dira ma volonté. »
Le chancelier s'étant levé, se mit à genoux devant le roi, comme pour lui demander la permission de parler. Après quoi, debout, couvert et tourné vers l'assemblée, il prononça un discours sur la perte que la France venait de faire de Louis XIV, qui avait été l'admiration de l'univers pendant sa vie et qui avait paru encore plus grand dans sa maladie et dans sa mort. Il termina par un éloge du duc d'Orléans. Ensuite, le premier président, s'étant mis à genoux, puis levé et découvert, demanda si les gens du roi n'avaient rien à dire. Le premier avocat général fit un discours qui parut fort long, portrait d'un roi idéal, éloge du duc de Bourgogne, énumération des grands exemples de sagesse et de gloire que le petit roi avait devant lui. Il conclut à la régence, telle qu'elle avait été décidée et organisée dès le 2 septembre. Le chancelier prit les opinions et prononça l'arrêt. Pendant toute cette très longue séance, Louis XV n'a point paru embarrassé. Il a toujours été tranquille et ferme à sa place, ayant attention à tout ce qui se disait et se faisait. La chaleur était telle qu'il devait s'essuyer de temps en temps avec un mouchoir que lui donnait Madame de Ventadour et qu'il lui rendait. Finalement, on dut le faire sortir par la lanterne, c'est-à-dire par la petite loge qui se trouvait à la hauteur du grand banc, celui des pères laïcs. Il passa dans le cabinet du premier président, où on le changea de linge et où il se reposa quelque temps. Étant rentré dans la grande chambre, il reprit sa place. Sur les 4h30, il put enfin s'en retourner à Vincennes, accompagné comme en venant. D'Anjou note avec soin tout ce qui concerne la santé de Louis XV. Le roi se fortifie et se porte ici à merveille. Le roi se porte à merveille et devient tous les jours plus joli, et par l'esprit et par les manières polies. Le roi se porte à merveille et se fortifie tous les jours. Le roi jouit toujours d'une parfaite santé. Une fois, en décembre, il a un rhume de cerveau qui passe très vite, et la litanie des bonnes nouvelles recommence. Le roi se porte bien, le roi se porte fort bien. Il se promène beaucoup, mais n'est pas dispensé des servitudes de son métier. Il fait prêter serment au duc d'Albret pour la charge de grand chambellan, à M. Terrat pour la charge de trésorier de l'ordre, au docteur Poirier pour la charge de premier médecin, Fagon étant relégué au jardin des plantes. Il donne audience à l'ambassadeur de Hollande, qui, dans sa harangue, lui souhaite un règne aussi long que celui de son prédécesseur, mais plus tranquille. Audience aussi aux députés des États de Languedoc, avec discours de l'évêque de Nîmes. Audience aussi à l'Assemblée du clergé, avec discours de l'évêque d'Auxerre. Madame croyait que Louis XV aimait ces cérémonies, et qu'il avait hérité ce goût de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, son arrière-grand-père, par les femmes. Elle était plus perspicace lorsqu'elle écrivait qu'il était, dès cet âge tendre, victime de sa grandeur et tenu de faire ce dont il n'avait aucune envie. Cependant, il était impossible de maintenir indéfiniment le roi à Vincennes, à cause des allées et venues, des pertes de temps que ce séjour imposait. Saint-Simon, ami du régent et membre du conseil de régence, plaida pour le retour à Versailles, parce qu'à Versailles, presque tout était rassemblé sous le même toit, tandis qu'à Paris, tout serait éparpillé, mêlé, confondu, sans cour ni rien de consistant. Mais le régent tenait à Paris. Il y habitait, il y avait ses plaisirs. Dès octobre, on parlait de l'installation du roi aux Tuileries, mais comme elles étaient inhabitées depuis longtemps, il fallut y faire des réparations qui exigèrent du temps. Des poutres pourries durent être remplacées. Et puis Vincennes avait fait grand bien à l'enfant. On réunit plusieurs fois les médecins pour juger quand on pourrait le mener à Paris sans danger du mauvais air. Le 15 novembre, ils dirent tous qu'il y avait à Paris beaucoup de petites véroles fort dangereuses, que ce serait très imprudent d'exposer le roi à la contagion. Dans une nouvelle réunion, le 6 décembre, ils reconnurent que la petite vérole était moins fréquente et moins dangereuse que le mois passé, mais qu'il ne fallait pas hasarder la santé du roi. Le départ fut encore ajourné. Le 30 décembre, le roi partit enfin, après déjeuner, dans un carrosse où 8 personnes étaient fort serrées. Au fond, le roi comprimé par le régent et Madame de Ventadour. Devant, le duc de Villeroy, entre le duc du Maine et le prince Charles de Lorraine, grand écuyer. À la portière droite, le maréchal d'Harcourt, capitaine des gardes. En quartier, à la porte gauche, le petit écuyer. Saint-Simon n'a pas tort d'écrire que cet entassement était peu décent et que le feu roi eût été bien étonné s'il avait pu voir son successeur faire son entrée dans Paris en troisième dans le fond du carrosse. Le corps de ville vint le haranguer. Monsieur Bignon, prévôt des marchands, portait la parole. On s'accorda à dire que son discours était très beau. L'enfant roi manifesta une grande joie à se trouver dans sa capitale. Le mois de janvier fut très froid. La Seine fut prise par les glaces, et comme la neige ne fondait pas, le duc de Bourbon put se promener dans Paris en traîneau, ce qu'on n'avait pas vu depuis le grand hiver. Le père Gaillard et le père de la rue prêchèrent le carême à la chapelle des Tuileries. On mena le roi au sermon, il écouta avec attention et ne parut pas s'ennuyer. Au début de février survint le dégel et il sortit pour la première fois le lundi 10. Il se rendit au palais royal pour voir la Palatine, le duc et la duchesse d'Orléans. Pendant tout l'hiver, sa santé avait été excellente. À la fin du mois, il se trouva mal à la messe, mais il ne souffrait que d'une colique qui ne dura pas longtemps. Le lendemain matin, il joua dans le jardin. À Pâques, il communia et lava les pieds de pauvres. L'été venu, on le promena dans Paris, aux Champs-Élysées, au cours la Reine, au Jardin du Roi, que nous appelons le Jardin des Plantes, au Bois de Boulogne, où il s'arrêta au Château de Madrid, à la Place Royale, à la Place des Victoires, qu'il n'avait pas encore vue. En août, on ne le laissa guère sortir à cause des grandes chaleurs et de la petite vérole qui était très répandue. Le 15, il suivit la procession qui se fit dans le péristyle des Tuileries. La veille de la Saint-Louis, il entendit de sa terrasse le concert qui se donne chaque année dans le jardin. Il y avait beaucoup de monde. Ce furent des cris continuels de « Vive le roi !» Une fois, il voulut aller à la plaine de Grenelle, où il savait qu'on devait passer par les armes un soldat qui avait déserté. Il témoigna beaucoup d'impatience que le prisonnier arriva. Dès qu'il fut à portée, il lui cria « Grâce !» On remarqua qu'il avait beaucoup de plaisir à le faire. Il n'était venu que pour cela, car le temps était fort vilain. Une autre fois, il alla dans l'après-midi voir la duchesse de La Ferté, dans sa maison de la rue Richelieu, qui était fort petite, mais d'une magnificence extraordinaire. Il y eut collation, musique, un ballet de petites filles, feu d'artifice, fontaine de vin dans la rue. Il fit de grands remerciements à la duchesse. Et puis, c'est la mécanique ordinaire. Exercice de dévotion, serment à recevoir, contrat de mariage à signer, réception des états de Languedoc, réception des chevaliers de Saint-Louis, réception et chapitre des chevaliers du Saint-Esprit. Du temps avait passé. Le roi atteignait l'âge de 7 ans. Le moment était venu de l'enlever aux femmes et de le passer aux hommes. Selon l'usage, on le mit tout nu et on fit défiler devant lui médecins, chirurgiens, apothicaires, princes, princesses, seigneurs et dames qui, après l'avoir palpé, examiné et visité membre à membre, signèrent un procès-verbal reconnaissant qu'il était de sexe mâle, nullement blessé, bien nourri, sain, net et entier.
Le 15 février 1717, Madame de Ventadour alla se poster au passage du régent, à l'heure où celui-ci se rendait au conseil de régence, et usant de la formule consacrée, elle lui adressa ces paroles.
« Monseigneur, voulez-vous que je dépose entre vos mains la personne du roi ?»«
Volontiers, madame. »
lui répondit le régent en entrant dans la chambre de l'enfant.
« Monseigneur, voilà le dépôt que le feu roi m'a confié et que vous m'avez continué. J'en ai pris tous les soins possibles et je vous le rends en parfaite santé. »
Le régent s'adressa ensuite au jeune roi.
« Sire, vous ne devez jamais oublier les obligations que vous avez à Madame de Ventadour. Elle vous a sauvé la vie par ses bons soins et chacun est content de l'éducation qu'elle vous a donnée. »
Ensuite, il désigna à l'enfant le duc du Maine, surintendant de son éducation, le duc de Villeroy, son gouverneur, et l'ancien évêque de Fréjus, Fleury, son précepteur. S'adressant à eux, il termina ainsi.
« Messieurs, ce sacré dépôt vous regarde particulièrement. Nous espérons que vous répondrez à l'attente que toute la France a conçue de vous pour l'éducation du roi. C'est à vous maintenant d'en avoir tout le soin que nous nous promettons de votre zèle et de votre inclination pour sa majesté et pour l'État. »
Maman ! Maman !
Mais le jeune roi restait inconsolable.
« Messire, il faut écouter la raison. »
« Ah maman, je ne connais plus de raison quand il faut m'éloigner de vous. Maman !»
Toute la journée, maman, il ne cessa de pleurer et de me réclamer. Il ne consentit à manger qu'auprès de moi. Sur le soir, enfin, il se calma et remit lui-même à la gouvernante les cadeaux qu'avait préparés Villeroy. Une croix en diamant, la bague du duc de Bourgogne, des bracelets avec son portrait et le mien, quelques très belles pierres et un collier de perles. Je revins le voir les jours suivants et il fit porter chez moi la vaisselle de vermeil de ses parents. En mai, le cher enfant revint par deux fois goûter chez moi et avec moi.
En 1745, Louis XV a 35 ans. De 1740 à 1748 se déroule la guerre de succession d'Autriche où la France s'allie avec la Prusse contre l'Autriche, l'Angleterre et les Pays-Bas. Dès l'annonce de la victoire de Fontenoy, 1745, Voltaire écrit un long poème épique en alexandrin connu sous le nom de « Poème de Fontenoy ». Il le dédie au roi Louis XV, dont il est l'historiographe. Voici comment Voltaire raconte le déroulement de cette bataille historique d'après le récit d'un certain Maurice, né en 1696, fils naturel de la belle et spirituelle comtesse de Königsmarck et d'Auguste, roi de Pologne.
Le roi voulut aller lui-même achever en Flandre les conquêtes qu'il avait interrompues l'année précédente. Il venait de marier le dauphin avec la seconde infante d'Espagne, au mois de février 1745. Et ce jeune prince, qui n'avait pas 16 ans accompli, se prépara à partir au commencement de mai avec son père. Le maréchal de Saxe était déjà en Flandre, à la tête de l'armée composée de 106 bataillons complets et de 172 escadrons. Déjà, Tournai, cette ancienne capitale de la domination française, était investie. C'était la plus forte place de la barrière. La ville et la citadelle étaient encore un des chefs-d'œuvre du maréchal de Vauban, car il n'y avait guère de place en Flandre dont Louis XIV n'eût fait construire les fortifications. Dès que les états généraux des sept provinces apprirent que Tournai était en danger, ils mandèrent qu'il fallait hasarder une bataille pour secourir la ville. Ces républicains, malgré leur circonspection, furent alors les premiers à prendre des résolutions hardies. Au 5 mai 1745, les alliés avancèrent à Cambron, à 7 lieues de Tournai. Le roi partit le 6 de Paris, avec le dauphin. Les aides de camp du roi, les menins du dauphin, les accompagnaient. La principale force de l'armée ennemie consistait en 20 bataillons et 26 escadrons anglais. Sous le jeune duc de Cumberland, qui avait gagné avec le roi son père la bataille de Dettingen, 5 bataillons et 16 escadrons hanovriens étaient joints aux Anglais. Le prince de Waldeck, à peu près de l'âge du duc de Cumberland, impatient de se signaler, était à la tête de 40 escadrons hollandais et de 26 bataillons. Les Autrichiens n'avaient dans cette armée que 8 escadrons. On faisait la guerre pour eux dans la Flandre, qui a été si longtemps défendue par les armes et par l'argent de l'Angleterre et de la Hollande. Mais à la tête de ce petit nombre d'Autrichiens était le vieux général Rönigsegg, qui avait commandé contre les Turcs en Hongrie et contre les Français en Italie et en Allemagne. Ses conseils devaient aider l'ardeur du duc de Cumberland et du prince de Waldeck. on comptait dans leur armée au-delà de 55 000 combattants. Le roi laissa devant Tournai environ 18 000 hommes, qui étaient postés en échelle jusqu'au champ de bataille, 6 000 pour garder les ponts sur l'Escaut et les communications. L'armée était sous les ordres d'un général en qui on avait la plus juste confiance. Le comte de Saxe avait déjà mérité sa grande réputation par de savantes retraites en Allemagne et par sa campagne de 1744. Il joignait une théorie profonde à la pratique, la vigilance, le secret, l'art de savoir différer à propos un projet et celui de l'exécuter rapidement. Le coup d'œil, les ressources, la prévoyance étaient ses talents, de l'aveu de tous les officiers. Mais alors ce général, consumé d'une maladie de langueur, était presque mourant. Il était parti de Paris très malade pour l'armée. L'auteur de cette histoire l'ayant même rencontré avant son départ et n'ayant pu s'empêcher de lui demander comment il pourrait faire dans cet état de faiblesse, le maréchal lui répondit « Il ne s'agit pas de vivre, mais de partir ». Le roi étant arrivé le 6 mai à Douai, se rendit le lendemain à Pontachin, à portée des tranchées de Tournai. J'ouvre ici une parenthèse car je ne vois ni dans les géographes, ni dans les cartes de Cassini, aucun lieu du nom de Pontachin, ni Pontachin près de l'Escaut. Enfin, je ferme cette parenthèse. De là, le roi alla reconnaître le terrain qui devait servir de champ de bataille. Toute l'armée, en voyant le roi et le dauphin, fit entendre des acclamations de joie. Les alliés passèrent le 10 et la nuit du 11 à faire leurs dernières dispositions. Jamais le roi ne marqua plus de gaieté que la veille du combat. La conversation roula sur les batailles où les rois s'étaient trouvés en personne. Le roi dit que depuis la bataille de Poitiers, aucun roi de France n'avait combattu avec son fils et qu'aucun depuis Saint-Louis n'avait gagné de victoire signalée contre les Anglais, qu'il espérait être le premier. Il fut éveillé le premier, le jour de l'action. Il éveilla lui-même, à 4 heures, le comte d'Argenson, ministre de la guerre, qui, dans l'instant, envoya demander au maréchal de Saxe ses derniers ordres. On trouva le maréchal, malade, dans une voiture d'osier qui lui servait de lit, et dans laquelle il se faisait traîner quand ses forces épuisées ne lui permettaient plus d'être à cheval. Le roi et son fils avaient déjà passé un pont sur l'Escaut à Calonne. Ils allèrent prendre leur poste par-delà la justice de Notre-Dame-aux-Bois, à 1000 toises de ce pont, précisément à l'entrée du champ de bataille. La suite du roi et du dauphin, qui composait une troupe nombreuse, était suivie d'une foule de personnes de toute espèce qu'attirait cette journée, et dont quelques-unes même étaient montées sur des arbres pour voir le spectacle d'une bataille. En jetant les yeux sur les cartes, qui sont fort communes, on voit d'un coup d'œil la disposition des deux armées. On remarque Antoin, assez près de l'Escaut, à la droite de l'armée française, à 900 toises de ce pont de Calonne, par où le roi et le dauphin s'étaient avancés. Le village de Fontenoy, par-delà Antoin, presque sur la même ligne. Un espace étroit de 450 toises de large entre Fontenoy et un petit bois qu'on appelle le bois de Barry. Ce bois, ces villages, étaient garnis de canons comme un camp retranché. Le maréchal de Saxe avait établi des redoutes entre Antoin et Fontenoy. D'autres redoutes, aux extrémités du bois de Barry, fortifiaient cette enceinte. Le champ de bataille n'avait pas plus de 500 toises de longueur, depuis l'endroit où était le roi, auprès de Fontenoy, jusqu'à ce bois de Barry, et n'avait guère plus de 900 toises de large, de sorte que l'on allait combattre en champ clos, comme à Dettingen, mais dans une journée plus mémorable. Le général de l'armée française avait pourvu à la victoire et à la défaite. Le pont de Calonne, muni de canons, fortifié de retranchements et défendu par quelques bataillons, devait servir de retraite au roi et au dauphin en cas de malheur. Le reste de l'armée aurait défilé alors par d'autres ponts, sur le bas Escaut, par de la Tournai. On prit toutes les mesures qui se prêtaient un secours mutuel sans qu'elles pussent se traverser. l'armée de France semblait inabordable, car le feu croisé, qui partait des redoutes du bois de Barry et du village de Fontenoy, défendait toute approche. Outre ces précautions, on avait encore placé 6 canons de 16 livres de balles au-deçà de l'Escaut pour foudroyer les troupes qui attaqueraient le village d'Antoin. On commença à se canonner de part et d'autre à 6h du matin. Le maréchal de Noailles était alors auprès de Fontenoy et rendait compte au maréchal de Saxe d'un ouvrage qu'il avait fait à l'entrée de la nuit pour joindre le village de Fontenoy à la première des 3 redoutes entre Fontenoy et Antoin et lui servit de premier aide de camp, sacrifiant la jalousie du commandement au bien de l'État et s'oubliant soi-même pour un général étranger et moins ancien. Le maréchal de Saxe sentait tout le prix de cette magnanimité. Et jamais on ne vit une union si grande entre deux hommes que la faiblesse ordinaire du cœur humain pouvait éloigner l'un de l'autre. Le maréchal de Noailles embrassait le duc de Gramont, son neveu, et ils se séparaient. L'un pour retourner auprès du roi, l'autre pour aller à son poste, lorsqu'un boulet de canon vint frapper le duc de Gramont à mort. Il fut la première victime de cette journée. Les Anglais attaquèrent 3 fois Fontenoy et les Hollandais se présentèrent à 2 reprises devant Antoin. À leur seconde attaque, on vit un escadron hollandais emporté presque tout entier par le canon d'Antoin. Il n'en resta que 15 hommes et les Hollandais ne se présentèrent plus dès ce moment. Alors le duc de Cumberland prit une résolution qui pouvait lui assurer le succès de cette journée. Il ordonna à un major général nommé Ingoldsby d'entrer dans le bois de Barry, de pénétrer jusqu'à la redoute de ce bois vis-à-vis Fontenoy et de l'emporter. Ingoldsby marche avec les meilleures troupes pour exécuter cet ordre. Il trouve dans le bois de Barry un bataillon du régiment d'un partisan. C'était ce qu'on appelait les Grassins, du nom de celui qui les avait formés. Ces soldats étaient en avant dans le bois, par-delà de la redoute, couchés par terre. Ingoldsby crut que c'était un corps considérable. Il retourne auprès du duc de Cumberland et demande du canon. Le temps se perdait. Le prince était au désespoir d'une désobéissance qui dérangeait toutes ses mesures et qu'il fit ensuite punir à Londres par un conseil de guerre qu'on appelle cour martiale. Il se détermina sur le champ à passer entre cette redoute et Fontenoy. Le terrain était escarpé, il fallait franchir un ravin profond, il fallait essuyer tout le feu de Fontenoy et de la redoute. L'entreprise était audacieuse, mais il était réduit alors ou à ne point combattre ou à tenter ce passage. Les Anglais et les Hanovriens s'avancent avec lui, sans presque déranger leur rang, traînant leurs canons à bras par les sentiers. Il les forme sur 3 lignes assez pressées et de 4 de hauteur chacune, avançant entre les batteries de canons qui les foudroyaient dans un terrain d'environ 400 toises de large. Des rangs entiers tombaient morts à droite et à gauche. Ils étaient remplacés aussitôt et les canons qu'ils amenaient à bras, vis-à-vis Fontenoy et devant les redoutes, répondaient à l'artillerie française. En cet état, ils marchaient fièrement, précédés de 6 pièces d'artillerie et en ayant encore 6 autres au milieu de leur ligne. Vis-à-vis d'eux se trouvèrent 4 bataillons des gardes françaises, ayant 2 bataillons des gardes suisses à leur gauche, le régiment de Courtaine à leur droite, ensuite celui d'Aubeterre, et plus loin, le régiment du roi qui bordait Fontenoy le long d'un chemin creux. Le terrain s'élevait à l'endroit où étaient les gardes françaises jusqu'à celui où les Anglais se formaient. Les officiers des gardes françaises se dirent alors les uns aux autres « Il faut aller prendre le canon des Anglais ». Ils y montèrent rapidement avec leurs grenadiers, mais ils furent bien étonnés de trouver une armée devant eux. L'artillerie et la mousqueterie en couchèrent par terre près de 60, et le reste fut obligé de revenir dans ses rangs. Cependant, les Anglais avançaient. Et en face, la ligne d'infanterie composée des gardes françaises et suisses et de Courtaine, ayant encore sur leur droite Aubeterre et un bataillon du régiment du roi, s'approchait de l'ennemi. On était à 50 pas de distance. un régiment des gardes anglaises, celui de Campbell, et le royal écossais étaient les premiers. Monsieur de Campbell était leur lieutenant général, le comte d'Albemarle, leur général-major, et monsieur de Churchill, petit-fils naturel du grand-duc de Marlborough, leur brigadier. Les officiers anglais saluèrent les Français en ôtant leur chapeau. Le comte de Chabannes, le duc de Biron, qui s'était avancé, et tous les officiers des gardes françaises leur rendirent le salut. Mylord Charles Hay, capitaine aux gardes anglaises, cria « Messieurs des gardes françaises, tirez !» Le comte d'Hauteroche, alors lieutenant des grenadiers et depuis capitaine, leur dit à voix haute « Messieurs, nous ne tirerons jamais les premiers. Tirez vous-même !» Les Anglais firent un feu roulant, c'est-à-dire qu'ils tiraient par division, de sorte que le front d'un bataillon, sur quatre hommes de hauteur ayant tiré, un autre bataillon faisait sa décharge, et ensuite un troisième, tandis que les premiers rechargeaient. La ligne d'infanterie française ne tira point ainsi. Elle était seule sur quatre de hauteur, les rangs assez éloignés, et n'étant soutenue par aucune autre troupe d'infanterie. 19 officiers des gardes tombèrent blessés à cette seule charge. Messieurs de Clisson, de Langeais, de Peyre, y perdirent la vie. 95 soldats demeurèrent sur la place. 285 y reçurent des blessures. 11 officiers suisses tombèrent blessés, ainsi que 209 de leurs soldats, parmi lesquels 64 furent tués. Le colonel de Courtaine, son lieutenant-colonel, 4 officiers, 75 soldats tombèrent morts. 14 officiers et 200 soldats furent blessés dangereusement. Le premier rang ainsi emporté, les trois autres regardèrent derrière eux, et ne voyant qu'une cavalerie à plus de 300 toises, ils se dispersèrent. Le duc de Gramont, leur colonel et premier lieutenant général, qui aurait pu les faire soutenir, était tué. Monsieur de Luteau, second lieutenant général, n'arriva que dans leur déroute. Les Anglais avançaient à pas lents, comme faisant l'exercice. On voyait les majors appuyer leurs cannes sur les fusils des soldats pour les faire tirer bas et droit. Ils débordèrent Fontenoy et la Redoute. Ce corps, qui auparavant était en trois divisions, se pressant par la nature du terrain, devint une colonne longue et épaisse, presque inébranlable par sa masse et plus encore par son courage. Elle s'avança vers le régiment d'Aubeterre. Monsieur de Luteau, premier lieutenant général de l'armée, à la nouvelle de ce danger, accourut de Fontenoy où il venait d'être blessé dangereusement. Son aide de camp le suppliait de commencer par faire mettre le premier appareil à sa blessure. « Le service du roi, lui répondit Monsieur de Luteau, m'est plus cher que ma vie. » Il s'avançait avec le duc de Biron à la tête du régiment d'Aubeterre que conduisait son colonel de ce nom. Luteau reçoit en arrivant deux coups mortels. Le duc de Biron a un cheval tué sous lui. Le régiment d'Aubeterre perd beaucoup de soldats et d'officiers. Le duc de Biron arrête alors, avec le régiment du roi qu'il commandait, la marche de la colonne par son flanc gauche. Un bataillon des gardes anglaises se détache, avance quelques pas à lui, fait une décharge très meurtrière et revient au petit pas se replacer à la tête de la colonne, qui avance toujours lentement sans jamais se déranger, repoussant tous les régiments qui viennent l'un après l'autre se présenter devant elle. Ce corps gagnait du terrain, toujours serré, toujours ferme. Le maréchal de Saxe, qui voyait de sang-froid combien l'affaire était périlleuse, fit dire au roi par le marquis de Meuse qu'il le conjurait de repasser le pont avec le dauphin, qu'il ferait ce qu'il pourrait pour remédier au désordre. « Oh, je suis bien sûr qu'il fera ce qu'il faudra, » répondit le roi, « mais je resterai où je suis. » Il y avait de l'étonnement et de la confusion dans l'armée depuis le moment de la déroute des gardes françaises et suisses. Le maréchal de Saxe veut que la cavalerie fonde sur la colonne anglaise. Le comte d'Estrées y court. Mais les efforts de cette cavalerie étaient peu de chose contre une masse d'infanterie si réunie, si disciplinée et si intrépide, dont le feu toujours roulant et soutenu écartait nécessairement de petits corps séparés. On sait d'ailleurs que la cavalerie ne peut guère entamer seule une infanterie serrée. Le maréchal de Saxe était au milieu de ce feu. Sa maladie ne lui laissait pas la force de porter une cuirasse. Il portait une espèce de bouclier de plusieurs doubles de taffetas piqués qui reposait sur l'arçon de sa selle. il jeta son bouclier et courut faire avancer la seconde ligne de cavalerie contre la colonne. Tout l'état-major était en mouvement. Monsieur de Vaudreuil, major général de l'armée, allait de la droite à la gauche. Monsieur de Puységur, monseigneur de Saint-Sauveur, de Saint-Georges, de Mézières, aide-maréchaux des logis, sont tous blessés. Le comte de Longonnet, aide-major général, est tué. Ce fut dans ces attaques que le chevalier Daché, lieutenant général, eut le pied fracassé. Il vint ensuite rendre compte au roi et lui parla longtemps, sans donner le moindre signe des douleurs qu'il ressentait, jusqu'à ce qu'enfin il tombât évanoui. Plus la colonne anglaise avançait, plus elle devenait profonde et en état de réparer les pertes continuelles que lui causaient tant d'attaques réitérées. Elle marchait toujours serrée au travers des morts et des blessés des deux parties et paraissait former un seul corps d'environ 14 000 hommes. Un très grand nombre de cavaliers furent poussés en désordre jusqu'à l'endroit où était le roi avec son fils. Ces deux princes furent séparés par la foule des fuyards qui se précipitaient entre eux. Pendant ce désordre, les brigades des gardes du corps qui étaient en réserve s'avancèrent d'elles-mêmes aux ennemis. Les chevaliers de Suzy et de Sommery y furent blessés à mort. Quatre escadrons de la gendarmerie arrivaient presque en ce moment de Douai, et malgré la fatigue d'une marche de 7 lieues, ils coururent aux ennemis. Tous ces corps furent reçus comme les autres, avec cette même intrépidité et ce même feu roulant. Le jeune comte de Chevrier, Guidon, fut tué. C'était le jour même qu'il avait été reçu à sa troupe. Le chevalier de Monaco, fils du duc de Valentinois, y eut la jambe percée. Monsieur Duguesclin reçut une blessure dangereuse. Les carabiniers donnèrent. Ils eurent 6 officiers renversés morts et 21 de blessés. Le maréchal de Saxe, dans le dernier épuisement, était toujours à cheval, se promenant au pas au milieu du feu. Il passa sous le front de la colonne anglaise pour voir tout de ses yeux, auprès du bois de Barry, vers la gauche. On y faisait les mêmes manœuvres qu'à la droite. On tâchait en vain d'ébranler cette colonne. Les régiments se présentaient les uns après les autres, et la masse anglaise faisant face de tous côtés, plaçant à propos son canon et tirant toujours par division, nourrissait ce feu continu quand elle était attaquée. Et après l'attaque, elle restait immobile et ne tirait plus. Quelques régiments d'infanterie vinrent encore affronter cette colonne par les ordres seuls de leur commandant. Le maréchal de Saxe en vit un dont les rangs entiers tombaient et qui ne se dérangeait pas. On lui dit que c'était le régiment des vaisseaux que commandait Monsieur de Guerchy. « Comment se peut-il faire ? » s'écria-t-il. « Que de telles troupes ne soient pas victorieuses ?» Hainaut ne souffrait pas moins. Il avait pour colonel le fils du prince de Craon, gouverneur de Toscane. Le père servait le grand-duc. Les enfants servaient le roi de France. Ce jeune homme, d'une très grande espérance, fut tué à la tête de sa troupe. Son lieutenant-colonel, blessé à mort, auprès de lui. Le régiment de Normandie s'avança. Il eut autant d'officiers et de soldats hors de combat que celui de Hainaut. Il était mené par son lieutenant-colonel, M. de Solancy, dont le roi loua la bravoure sur le champ de bataille et qu'il récompensa ensuite en le faisant brigadier. Des bataillons irlandais coururent au flanc de cette colonne. Le colonel Dillon tombe mort. Ainsi, aucun corps, aucune attaque n'avait pu entamer la colonne, parce que rien ne s'était fait de concert et à la fois. Le maréchal de Saxe repasse par le front de la colonne, qui s'était déjà avancé plus de 300 pas au-delà de la redoute d'Eux et de Fontenoy. Il va voir si Fontenoy tenait encore. On n'y avait plus de boulets. On ne répondait à ceux des ennemis qu'avec de la poudre. Monsieur Dubrocard, lieutenant général d'artillerie et plusieurs officiers d'artillerie étaient tués. Le maréchal pria alors le duc d'Harcourt, qu'il rencontra, d'aller conjurer le roi de s'éloigner et il envoya ordre au comte de la Marque, qui gardait Antoin, d'en sortir avec le régiment de Piémont. La bataille parut perdue sans ressources. On ramenait de tous côtés les canons de campagne, on était prêt de faire partir celui du village de Fontenoy, quoique des boulets fussent arrivés. L'intention du maréchal de Saxe était de faire, si l'on pouvait, un dernier effort mieux dirigé et plus plein contre la colonne anglaise. Cette masse d'infanterie avait été endommagée, quoique sa profondeur parût toujours égale. Elle-même était étonnée de se trouver au milieu des Français sans avoir de cavalerie. La colonne était immobile et semblait ne recevoir plus d'ordre, mais elle gardait une contenance fière et paraissait être maîtresse du champ de bataille. Si les Hollandais avaient passé entre les redoutes, qui étaient vers Fontenoy et Antoin, s'ils étaient venus donner la main aux Anglais, il n'y avait plus de ressources, plus de retraite même, ni pour l'armée française, ni probablement pour le roi et son fils. Le succès d'une dernière attaque était incertain. Le maréchal de Saxe, qui voyait la victoire ou l'entière défaite dépendre de cette dernière attaque, songeait à préparer une retraite sûre. Il envoya un second ordre au comte de la Marque d'évacuer Antoin et de venir vers le pont de Galonne pour favoriser cette retraite en cas d'un dernier malheur. Il fait signifier un troisième ordre au comte de Puy, duc de Lorge. En le rendant responsable de l'exécution, le comte de Lorge obéit à regret. On désespérait alors du succès de la journée. Un conseil assez tumultueux se tenait auprès du roi. On le pressait, de la part du général et au nom de la France, de ne pas s'exposer davantage. Le duc de Richelieu, lieutenant général et qui servait en qualité d'aide de camp du roi, arriva en ce moment. Il venait de reconnaître la colonne près de Fontenoy. Ayant ainsi couru de tous côtés sans être blessé, il se présente hors d'haleine, l'épée à la main et couvert de poussière. « Quelle nouvelle apportez-vous ? » lui dit le maréchal de Noailles. « Quel est votre avis ?»« Ma nouvelle, dit le duc de Richelieu, est que la bataille est gagnée si on le veut. Et mon avis est qu'on fasse avancer dans l'instant 4 canons contre le front de la colonne. Pendant que cette artillerie l'ébranlera, la maison du roi et les autres troupes l'entoureront. Il faut tomber sur elle comme des fourrageurs. » Le roi se rendit le premier à cette idée. 20 personnes se détachent. Le duc de Pékigny, appelé depuis le duc de Chaulnes, va faire pointer ses 4 pièces. On les place vis-à-vis la colonne anglaise. Le duc de Richelieu court à bride abattue. Au nom du roi, faire marcher sa maison. Il annonce cette nouvelle à monsieur de Montesson, qui la commandait. Le prince de Soubise rassemble ses gendarmes. Le duc de Chaulnes, ses chevaux légers. Tout se forme et marche. 4 escadrons de la gendarmerie avancent à la droite de la maison du roi. Les grenadiers à cheval sont à la tête, sous monsieur de Grille, leur capitaine. Les mousquetaires, commandés par monsieur de Jumilhac, se précipitent. Dans ce même moment important, le comte d'Eux et le duc de Biron, à la droite, voyaient avec douleur les troupes d'Antoin quitter leur poste, selon l'ordre positif du maréchal de Saxe. « Je prends sur moi la désobéissance, leur dit le duc de Biron. Je suis sûr que le roi l'approuvera dans un instant, où tout va changer de face. Je réponds que monsieur le maréchal de Saxe le trouvera bon. » Le maréchal, qui arrivait dans cet endroit, informé de la résolution du roi et de la bonne volonté des troupes, n'eut pas de peine à se rendre. Il changea de sentiment lorsqu'il en fallait changer et fit rentrer le régiment de Piémont dans Antoin. Il se porta rapidement, malgré sa faiblesse, de la droite à la gauche vers la brigade des Irlandais, recommandant à toutes les troupes qu'il rencontrait en chemin de ne plus faire de fausses charges et d'agir de concert. Le duc de Biron, le comte d'Estrée, le marquis de Croissy, le comte de Lovendal, lieutenant généraux, dirigent cette attaque nouvelle. 5 escadrons de Penthièvre suivent monsieur de Croissy et ses enfants. Les régiments de Chabrian, de Branca, de Brionne, Aubeterre, Courtaine, accourent, guidés par leur colonel. Le régiment de Normandie, des carabiniers, entrent dans les premiers rangs de la colonne et vengent leurs camarades tués dans leur première charge. Les Irlandais les secondent. La colonne était attaquée à la fois de front et par les deux flancs. En 7 ou 8 minutes, tout ce corps formidable est ouvert de tous côtés. Le général Ponsonby, le frère du comte d'Albemarle, 5 capitaines aux gardes, un nombre prodigieux d'officiers étaient renversés morts. Les Anglais se rallièrent, mais ils cédèrent. Ils quittèrent le champ de bataille sans tumulte, sans confusion et furent vaincus avec honneur. Le roi de France allait de régiment en régiment. Les cris de victoire et de vive le roi, les chapeaux en l'air, les étendards et les drapeaux percés de balles, les félicitations réciproques des officiers qui s'embrassaient, formaient un spectacle dont tout le monde jouissait avec une joie tumultueuse. Le roi était tranquille, témoignant sa satisfaction et sa reconnaissance à tous les officiers généraux et à tous les commandants des corps. Il ordonna qu'on eût soin des blessés et qu'on traitât les ennemis comme ses propres sujets. Le maréchal de Saxe, au milieu de ce triomphe, se fit porter vers le roi. Il retrouva un reste de force pour embrasser ses genoux et pour lui dire ses propres paroles. « Sire, j'ai assez vécu. Je ne souhaitais de vivre aujourd'hui que pour voir votre majesté victorieuse. Vous voyez, ajouta-t-il ensuite, à quoi tiennent les batailles. » Le roi le releva et l'embrassa tendrement. Il dit au duc de Richelieu « Je n'oublierai jamais le service important que vous m'avez rendu. » Il parla de même au duc de Biron. Le maréchal de Saxe dit au roi « Sire, il faut que je me reproche une faute. J'aurais dû mettre une redoute de plus entre les bois de Barry et de Fontenoy, mais je n'ai pas cru qu'il y eût des généraux assez hardis pour hasarder de passer en cet endroit. Les alliés avaient perdu 9000 hommes, parmi lesquels il y avait environ 2000 prisonniers. Ils n'en firent presque aucun sur les Français. » Par le compte exactement rendu au major général de l'infanterie française, il ne se trouva que 1681 soldats ou sergents d'infanterie tués sur la place, et 3282 blessés. Parmi les officiers, 53 seulement étaient morts sur le champ de bataille. 323 étaient en danger de mort par leurs blessures. La cavalerie perdit environ 1800 hommes. Jamais, depuis qu'on fait la guerre, on avait pourvu avec plus de soin à soulager les maux attachés à ce fléau. Il y avait des hôpitaux préparés dans toutes les villes voisines, et surtout à Lille. Les églises mêmes étaient employées à cet usage digne d'elles. Non seulement aucun secours, mais encore aucune commodité ne manqua ni aux Français, ni à leurs prisonniers blessés. Le zèle même des citoyens alla trop loin. On ne cessait d'apporter de tous côtés aux malades des aliments délicats, et les médecins des hôpitaux furent obligés de mettre un frein à cet excès dangereux de bonne volonté. Enfin, les hôpitaux étaient si bien servis que presque tous les officiers aimaient mieux y être traités que chez des particuliers, et c'est ce qu'on n'avait point encore vu. On est entré dans les détails sur cette seule bataille de Fontenoy. Son importance, le danger du roi et du dauphin l'exigeaient. Cette action décida du sort de la guerre, prépara la conquête des Pays-Bas et servit de contrepoids à tous les événements malheureux. Ce qui rend encore cette bataille à jamais mémorable, c'est qu'elle fut gagnée lorsque le général, affaibli et presque expirant, ne pouvait plus agir. Le maréchal de Saxe avait fait la disposition et les officiers français remportèrent la victoire. Ce qui est aussi remarquable que cette victoire, c'est que le premier soin du roi de France fut de faire écrire le jour même à l'abbé de Laville, son ministre à La Haye, qu'il ne demandait pour prix de ses conquêtes que la pacification de l'Europe et qu'il était prêt d'envoyer des plénipotentiaires à un congrès. Les états généraux, surpris, ne crurent pas l'offre sincère. Ce qui dut surprendre davantage, c'est que cette offre fut éludée par la reine de Hongrie et par les Anglais. Cette reine, qui faisait à la fois la guerre en Silésie contre le roi de Prusse, en Italie contre les Français, les Espagnols et les Napolitains, vers le Maine contre l'armée française, semblait devoir demander elle-même une paix dont elle avait besoin. Mais la cour d'Angleterre, qui dirigeait tout, ne voulait point cette paix. La vengeance et les préjugés mènent les cours comme les particuliers.